Bonjour et bienvenue dans Back Channel, le podcast consacré aux coulisses de la politique internationale. Bilal Tarabeh, vous êtes journaliste à France 24, vous avez vécu aux États-Unis, au Liban, mais aussi à Madagascar, et vous êtes spécialiste de politique internationale, en particulier du Liban. Bonjour.
Bonjour.
Phoenix, vous êtes romancier et spécialiste du renseignement. Bonjour.
Bonjour Laura.
Le 5 novembre auront lieu les élections américaines. Phoenix, vous pourriez nous résumer la situation en commençant par le mécanisme électoral avec lequel les Français ne sont pas nécessairement tous familiers ?
Bon, d'abord, alors très rapidement, c'est pas un scrutin populaire, hein, qu'on comprenne bien, puisque là, régulièrement, à chaque fois qu'il y a un républicain qui est élu à la présidentielle, on dit « Ah, c'est scandaleux, c'est pas une démocratie, puisque celui qui a gagné a moins de voix que celui qui a perdu ». Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a 50 États, c'est un État fédéral. La base de la démocratie américaine, c'est pas que plus j'ai de voix, plus je gagne, c'est respecter les droits des États. Et c'est en fait, le principe de la liberté ne peut être assuré que s'il y a un équilibre, évidemment, entre les trois pouvoirs, Montesquieu, mais aussi, la plus particulière aux États-Unis, un équilibre entre la démocratie locale, la démocratie au niveau de l'État, et la démocratie du gouvernement fédéral. Et plus on est à gauche aux États-Unis, plus on pense finalement que le modèle fédéral peut devenir un modèle plus centralisé sur le modèle européen, mais la grande majorité pense absolument le contraire, et pense qu'au contraire que la condition de la liberté américaine, l'une des conditions, c'est pas simplement le droit de vote ou le port d'armes, etc., c'est évidemment que l'État fédéral s'en tienne à son territoire et laisse aux États leur territoire. Donc ça, c'est fondamental. Ensuite, donc, ça fonctionne par un vieux mécanisme qui date du début du 19e siècle, c'est-à-dire les élections populaires, donc les votes sont comptés dans tous les 50 États, et ensuite, chaque État représente un certain nombre de grands électeurs qui est proportionnel à la population. Mais cette proportionnalité n'est pas exacte, puisqu'évidemment, il y a des ajustements qui se font régulièrement. Donc quand il y a évidemment un État qui perd de la population, eh bien, il aura en moyenne tendance à être surreprésenté. Quand il y a un État qui gagne de la population, il a en moyenne tendance à être sous-représenté. Voilà, puisque les ajustements ne sont évidemment pas tout faits tout le temps. Le mécanisme est un mécanisme dans chaque État de ce qu'on appelle aux États-Unis de winner takes all, c'est-à-dire que si vous avez une voix de plus que l'adversaire, eh bien, tous les grands électeurs sont censés voter pour celui qui a gagné, sauf dans deux États qui sont le Maine, dans le nord-est des États-Unis, et le Nebraska, dans le Middle West, où là, il y a une forme de proportionnalité. Et comme ces États représentent assez peu en grands électeurs, finalement, ça ne change rien. Enfin, oui, c'est vrai, la notion d'État pivot, ou swing states, donc je pense que ça, on connaît tous, c'est-à-dire qu'il y a des États qui, traditionnellement, vont quasiment tout le temps voter républicain, des États qui vont quasiment tout le temps voter démocrate, et des États qui vont changer selon les présidentielles. Or, il est vrai qu'on n'a jamais eu aussi peu de suspense que sur cette élection, puisqu'on sait quasiment, on est quasiment certain de la couleur du vote de 43 États sur les 50. Et en gros, on sait à peu près, c'est-à-dire que les démocrates, enfin, les États où le démocrate va l'emporter, donc Harris, c'est la côte ouest, la côte est et une partie du Middle West, et les États où les républicains vont l'emporter, donc Trump, c'est tout le reste. Il y a donc 7 swing states qui ont des nombres de grands électeurs, encore une fois, proportionnels à leur population. Le plus important, c'est la Pennsylvanie avec 19 votes, le moins important, c'est le Nevada avec 6 votes, et entre les deux, vous avez le Wisconsin, le Michigan, la Caroline du Nord, la Géorgie et l'Arizona. Donc ça fait 7. Et pour ces États-là, alors là par contre, les sondages n'arrêtent pas de se contredire. Donc voilà comment ça marche.
Et que disent les sondages ?
Alors d'abord, les sondages nationaux sont évidemment, c'est surtout ceux-là qu'on voit, mais en fait ils n'ont pas beaucoup de valeur, et plus vous avez un nombre de swing states réduit, moins les sondages nationaux ont de valeur, et plus la seule chose qui compte, c'est quelle est la probabilité de gagner dans chacun des 7 swing states. Et ensuite, vous additionnez les grands électeurs pour voir par rapport aux sommes que vous avez déjà sur les 43 où vous savez à peu près qui va gagner, voir qui fait plus de 269 grands électeurs, puisque le chiffre c'est 538, le fameux chiffre 538, qui correspond en fait à 438 représentants dans la Chambre des représentants et les 100 sénateurs. Il ne faut pas oublier aussi que c'est pas du tout que des élections présidentielles. On va voter à peu près pour tout, quoi. Les municipalités, les shérifs, les attorney generals, etc. Les assemblées des États. Mais plus à niveau fédéral, ça va être la totalité des représentants et un tiers des sénateurs. Donc voilà. Et les sondages, ils disaient que depuis que Harris, en fait, une semaine après que Biden annonce, et ça c'était quelques jours après la convention républicaine, donc ça doit être le 20 ou le 21 juillet, quand Biden a annoncé que voilà, il se retirait, parce qu'il ne pouvait plus supporter la pression depuis sa performance du débat de la fin juin. Là, c'était plus possible, et que bon, c'était assez évident que ce serait Harris. Une semaine, 8 jours après, elle a très 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 vite rebondi, bien avant même la convention démocrate qui elle, se tenait en août, et pendant à peu près, je dirais, de la mi-août jusqu'à la fin septembre, pendant à peu près 6 semaines, les États-Unis en général et la plupart des spécialistes pensaient que Harris allait gagner. Depuis 3 à 4 semaines, la majorité des experts, mais pas une grosse majorité, pensent que Trump va gagner. Et donc voilà, voilà à peu près où on en est.
Quelles seraient les conséquences d'une victoire de Trump sur la situation intérieure américaine ?
C'est assez prévisible en fait. Ce qui est moins prévisible, c'est la politique extérieure de Trump, hein, parce que même si on parlait tout à l'heure du Proche-Orient, il y a plein de choses qui ne sont pas prévisibles. Hein, par exemple, ce qu'a fait Trump dans son premier mandat avec la Corée du Nord, ce n'était pas prévisible. Hein, l'histoire de Trump et la Corée du Nord est super intéressante. Un jour, on pourra en parler sur un podcast. Mais d'un point de vue intérieur, ça, c'est assez clair. D'un point de vue économique, il ne faut pas oublier que beaucoup d'Américains raisonnables votent Trump à cause de l'économie. Pas du tout forcément parce que c'est des idéologues ou c'est les suiveurs de son culte. Il va en gros baisser les impôts, c'est clair. Il va baisser les prestations sociales. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais par rapport aux pays d'Europe occidentale, mais il y en a quand même un peu. Il va surtout baisser les impôts. Et plus on est riche, plus il baissera les impôts. Donc ça, c'est en gros un retour au trickle-down des années Reagan. Hein. C'est la grande mantra républicaine. Il va déréglementer. Il va aussi augmenter drastiquement les droits de douane, ce qui là évidemment va vachement affecter les Européens. Faut pas oublier que le deuxième mandat Trump, s'il est élu, sera beaucoup plus dur. Si on trouve que Trump, sur la deuxième partie de son premier mandat, était quand même un peu radical par rapport à la première partie de son mandat, je pense qu'on n'a encore rien vu avec ce qui arrive. Quoi. Là, il se sent assez libéré. Quoi. C'est donc, je pense que ça va être assez sport. Socialement, il va y avoir des procès en destitution, parce qu'il a très très envie de se venger. Donc, qui va essayer de poursuivre en destitution et comment, parce que heureusement ça reste une démocratie, ça j'en sais rien. Mais bon, on a parlé du ministre de la Justice, on a parlé de celui qui était responsable de la sécurité aux frontières, donc le Homeland, on a parlé de Biden, ça il adorerait un procès en destitution de Biden, puisqu'il s'est toujours pas remis des deux qu'on lui a fait. Donc ça c'est le côté un peu, on va dire, un peu spécial de la psychologie de Trump. Il va aussi nommer des juges de droite à peu près partout. Donc là on voit le poids que ça a avec la Cour suprême, qui pourtant est évidemment complètement indépendante de l'exécutif, hein, puisqu'on a une répartition, une séparation des trois pouvoirs, mais malgré ça, comme par le hasard des choses, comme depuis 20 ans, c'est à chaque fois qu'il y a un juge de la Cour suprême, il y en a 9 qui meurent, c'était en pile pendant une présidence républicaine, à part une exception près, on s'est retrouvé avec une majorité libérale, on s'est retrouvé avec une majorité ultra-conservatrice en 20 ans.
Quoique Mitch McConnell avait empêché, je crois, de mémoire Obama d'en nommer un.
Et Obama, les démocrates, ils ont quand même, les démocrates sont quand même plutôt ceux qui ont été élus présidents, sont en général plutôt centre-gauche, ils ont un certain respect des institutions, en tout cas plus que des types qui sont vachement à droite, quoi. Donc voilà, donc on a une Cour suprême et ultra conservatrice, c'est pour ça qu'on a eu Roe v. Wade qui a été révoqué, mais donc il va nommer des juges à fond à droite, le plus qu'il peut, un peu partout, alors selon évidemment la possibilité qu'il puisse le faire, hein. Donc voilà, après on n'a pas parlé du plus gros danger, c'est qu'il y a aussi une possibilité d'un, ce qu'on appelle en américain un triple whammy, c'est-à-dire que Trump soit élu, que la Chambre de représentants reste du côté républicain. Alors, de toute façon, on n'anticipe pas un énorme changement en termes de majorité, mais il est peu probable que les démocrates la reprennent, bien que ce ne soit pas impossible, et que le Sénat, qui est lui aussi, c'est une majorité de 51, je crois, sur 49, si je ne me trompe pas.
C'est 51 avec Kamala Harris.
Ouais, tu as raison, tu as tout à fait raison. Les, sur la Chambre des représentants, les républicains ont une majorité de 6 ou un truc comme ça, donc on est vraiment, vraiment à ras les pâquerettes. Et donc, il n'est pas impossible, peu probable, parce qu'il faudrait quand même une multiplication des probabilités sur 3 scrutins différents, mais il n'est pas impossible qu'il y ait les 3. Donc si on a une majorité républicaine au Sénat, une majorité républicaine, Chambre des représentants et Trump, là, encore une fois, les 4 ans qui viennent seront, on va dire, vraiment beaucoup plus sports que le premier mandat Trump. Heureusement, il y a les midterms, donc ça pourrait être que 2 ans comme ça. Donc voilà ce qui va se passer avec la politique intérieure américaine. Ah oui, j'oubliais, l'expulsion possible d'une bonne partie des migrants. Alors ça, là, on est à la frontière, ça c'est sûr. Le mur, ben, de toute façon, il ne marche pas le mur, mais bon, on va voir ce qu'on va faire. Mais le gros truc, c'est l'expulsion de masse de migrants. C'est même pas forcément possible logistiquement. Enfin bon, tout est possible, donc voilà. Donc c'est beaucoup de choses.
Bilal, quel scénario pour le Proche-Orient en cas de victoire de Trump, mais aussi de Harris ?
Ce dont on a peur, parce que, alors pour le coup, Trump n'est pas fou, mais c'est vrai qu'il a un côté imprévisible. Mais d'abord, sur les conflits qui opposent Israël, alors d'une part aux Palestiniens, d'autre part à l'Iran, et encore d'autre part au Hezbollah, ben que tout simplement Israël est carte blanche pour... quand je dis Israël, c'est le gouvernement israélien de Benjamin Netanyahou et ses alliés d'extrême droite. Et carte blanche pour faire un petit peu comme il entend, typiquement Donald Trump, sur la réponse attendue d'Israël à l'Iran, après que l'Iran a frappé pour la dernière fois Israël. Trump avait déclaré que si ça avait été lui, il conseillerait Benjamin Netanyahou de frapper directement les installations nucléaires de l'Iran. Bon, on voit qu'on n'est pas dans la négociation, voire la finesse. Alors, paradoxalement, il y a une petite musique qui monte dans la rue arabe. C'est le fait de se dire que, quitte à ce que ça ne change rien, parce qu'en fait, du point de vue arabe, on se dit de toute façon, ça ne changera pas grand-chose. Qu'il y ait Kamala Harris ou qu'il y ait Donald Trump, puisque ce qu'attendent non pas les États, mais les populations dans le monde arabe, c'est vraiment un règlement de la question palestinienne, et ça veut dire la création d'un État palestinien. Et on voit qu'il y a quand même eu une succession de pouvoirs démocrates qui n'a pas abouti, et certainement Joe Biden, qui n'a pas abouti à une amélioration, ne serait-ce qu'à un arrêt de la colonisation, par exemple, israélienne de la Cisjordanie. Donc il y a une partie de la rue arabe qui commence à se dire que de toute façon, peu importe, et pourquoi pas Donald Trump, et au pire, Donald Trump étant tellement... je vous restitue ce que j'entends. Hein, Donald Trump étant tellement sanguin et imprévisible que pourquoi pas, ça se trouve, il arriverait à arrêter les conflits, etc. Maintenant, c'est... A priori, pas à l'avantage, en tout cas certainement pas des Palestiniens, mais c'est ce qui se dit. Donc de toute façon, pour le Proche et le Moyen-Orient, disons que Trump serait pire que Harris, dans le sens des... ou meilleur que Harris. On voit des américano-israéliens vivant en Israël qui ont je lisais ça tout à l'heure, qui ont voté toute leur vie démocrate, qui vont voter par exemple pour Donald Trump, parce qu'ils ne partagent rien de ce qu'il dit. Mais pour eux, c'est le défenseur inconditionnel d'Israël, et c'est ce dont ils ont besoin en même temps. Alors, il y avait la première partie de la question, ça concernait le Proche-Orient. Il y avait schéma Harris ou schéma Trump. Honnêtement, ça ne va pas changer grand-chose, à part que ce sera plus direct sous Donald Trump. La grande question, ça va être celle que Phoenix évoquait, qui était d'une confrontation directe ou pas avec l'Iran. Finalement, c'est ça, le vrai point clé à surveiller. En cas de victoire de Kamala Harris, ça n'arrivera certainement pas. En cas de victoire de Donald Trump, on est à l'abri de rien, particulièrement dans le Golfe Persique aussi.
Phoenix, et pour l'OTAN
Bon, si c'est Harris, ça ne changera pas grand-chose. Les budgets de défense vont continuer à lentement augmenter. Le conflit russo-ukrainien n'est pas prêt de se résoudre. Si c'est Trump, ce qui semble de plus en plus possible, Bon, là, ce qui va se passer, c'est qu'il va immédiatement y avoir une pression sur l'OTAN. Donc les pays qui sont en dessous de 2% vont se faire tirer les oreilles. Et Trump va, comme à chaque fois, menacer de ne jamais appliquer l'article 5, hein, qui force tout pays à défendre un autre pays de l'OTAN attaqué. Du coup, c'est pour ça que si l'Estonie s'est attaquée par la Russie, l'article 5 oblige l'ensemble de l'OTAN à aller défendre l'Estonie. L'autre chose, c'est qu'il peut aussi, parce que je pense encore une fois qu'un nouveau mandat Trump sera beaucoup, beaucoup plus extrémiste, hein, et beaucoup plus isolationniste. Il est tout à fait aussi possible que Trump décide de quitter l'OTAN, ce qu'il aurait vraiment voulu faire dans son premier mandat. Il a été arrêté par les militaires et son administration dans la première partie du mandat, où finalement on oublie qu'il y avait des gens finalement assez raisonnables autour de lui à la Maison Blanche entre 2016 et 2018. C'est vraiment les derniers 18 mois où c'est devenu assez délirant. Là, il commencera avec les délirants tout de suite. Et puis, comme en plus, quand on travaille pour Trump, à 90%, on ne retravaille pas pour Trump. Il faudra qu'il aille en chercher des encore plus délirants que les délirants qu'il avait entre 2019 et 2020. Et enfin, on dit souvent, ah oui, mais Trump, malgré tout, c'est vrai qu'il n'y avait pas de conflit pendant sa présidence. Et il y en a plein à l'époque de Biden. Ce qu'on oublie complètement, c'est que, par définition, tout le monde ne pense pas comme nous. Et que pour faire de la politique étrangère, il faut quand même réussir un peu à réfléchir comme soit son allié ou soit son ennemi. Parce que, évidemment, on peut toujours faire de son ennemi son allié. Là, c'est si on est vraiment très bon diplomate. Et on oublie qu'en fait, Trump, pour Xi Jinping, pour Poutine, pour plein de gens, il est plein de choses, d'accord ? Ou même pour Kim Jong-un, qui lui a des sacrés problèmes mentaux, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Il est beaucoup de choses, mais il est surtout tellement imprévisible que les autocrates, en général, ils n'aiment pas ça, surtout quand on est imprévisible et qu'on est à la tête d'une armée qui est probablement deux fois plus forte que la seconde plus forte armée au monde, qui serait peut-être l'armée chinoise. Encore, n'oublions pas que la prédiction de résultats dans la guerre, c'est pas du tout uniquement la taille de l'armée, hein, puisque la plupart du temps, des armées ultra modernes et nouvelles, mais qui n'ont pas combattu depuis 50 ans, ce qui est le cas de l'armée chinoise, ça se passe très rarement bien lors de leur premier conflit. Pas tout le temps, mais rarement. Parce qu'évidemment, l'expérience et la transmission de l'expérience du combat est absolument essentielle dans la chose militaire. Mais donc oui, c'est tout simple, il ne pense pas du tout comme nous, donc si Trump est élu pour 4 ans, à moins qu'il devienne dictateur, ce qui est quand même peu probable, eh bien, ils attendent 4 ans. Et en fait, ce que Biden a hérité, c'est qu'il a simplement hérité des problèmes de la présidence Trump.
Oui, à titre personnel, la théorie qui est évidemment alimentée par les partisans de Donald Trump, qui est que Vladimir Poutine n'aurait jamais osé attaquer l'Ukraine ou n'a pas osé attaquer l'Ukraine tant que Donald Trump était président, à titre personnel, j'y crois pas une seconde.
Pour finir, messieurs, entre Trump et Kamala Harris, hein, qui va gagner ?
Moi, comme je vous le disais tout à l'heure, malheureusement, depuis 3-4 semaines, j'entends que Trump a l'avantage. Si on regarde les sondages, donc des swing states ou états pivots, ce qu'on appelle le blue wall, c'est-à-dire les Michigan, Wisconsin et Pennsylvanie, Harris, en général, est un peu au-dessus, et les états du sud et de l'ouest, à part du Nevada, Trump aurait l'avantage. Après, on peut regarder ça état par état, hein, parce qu'il y a des problématiques spécifiques à chaque état. Mais en fait, il y a deux théories en ce moment à Washington dont on parle. La première théorie, qui est, pour les gens que j'écoute, la plus probable, c'est regardons en moyenne le sondage national. Donc je sais que j'ai expliqué que les sondages nationaux n'indiquaient rien, mais ça reste quand même un indicateur, surtout si on essaie de comparer par rapport à plusieurs élections présidentielles. Donc en moyenne, sur les dernières semaines, Hillary Clinton avait 6 points d'avance sur Trump, d'accord, sur les 2-3 dernières semaines. En moyenne, Biden avait 10 à 11 points d'avance sur Trump sur les 2-3 dernières semaines. Or, sur le système des grands électeurs, pas sur le total des voix, qui n'a absolument aucune importance dans l'issue du scrutin, Hillary Clinton a perdu assez largement sur les grands électeurs, et Biden a gagné. Mais sur les états pivots, il a parfois gagné avec des marges, mais minuscules par rapport à ce qu'on lui prédisait. D'accord ? Du coup, ces gens disent, Harris, au mieux, elle a un point d'avance. D'un point de vue national, peut-être deux. Donc du coup, pour eux, la conclusion, c'est elle a déjà perdu. Et elle n'a pas simplement perdu, ça va être une victoire nette pour Trump. Donc ça, c'est un écho qu'on entend. L'autre écho, qui est minoritaire, c'est oui, mais on n'est plus en 2016, et on n'est plus non plus en 2020, même si Trump était président élu, enfin président sortant, pardon, à l'époque. Or, si on a ces décalages constant pour Trump entre les sondages, qui sont des décalages qu'on voit assez souvent dans pas mal de pays, mais qu'on voyait beaucoup plus avant, hein, extrême droite ou droite très dure, qui est toujours sous-représentée parce que les gens n'osent pas le dire, etc. Ça, c'est de moins en moins vrai, d'ailleurs. Et donc, si c'est la même chose pour Trump, et que finalement, ce qu'on appelle le « hidden Trump vote », donc le vote caché pour Trump, n'existe plus, ce qui est possible, du coup, ça remet la possibilité que finalement, Harris gagne. Il ne faut pas grand-chose. Pennsylvanie, qui offre le plus grand nombre de grands électeurs, qui est absolument essentiel pour les démocrates, on est vraiment, vraiment sans arrêt au bord. Ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Il y a une population d'origine musulmane en Pennsylvanie qui est importante et qui, évidemment, n'est pas du tout contente avec l'administration démocrate. On a une population juive importante aussi, qui, au contraire, est à fond pour Israël. On a les grandes villes qui sont quand même très démocrates. On a toute la population blue-collar, donc ouvrière, qui, elle, est complètement à fond Trump. Michigan, on a la problématique de la population d'origine arabe qui représente à peu près 10% des électeurs. On se dit, mais est-ce qu'ils vont tous voter pour Trump ou est-ce qu'ils vont s'abstenir? On a le Wisconsin qui a été récemment remporté de justesse. En général, on pense que le Nevada sera Harris. On pense que la Caroline du Nord, c'est quasiment sûr, ça sera Trump. Et la Géorgie et l'Arizona, on ne sait pas. Donc du coup, ce deuxième scénario, le hidden Trump vote, il n'existe plus. Du coup, les sondages nationaux sont finalement peut-être justes. Et s'ils sont justes, Harris a encore une chance de gagner qui ressemble à peu près à un pile ou face. Voilà, ça c'est les deux échos qu'on entend.
Oui, bon, on est de toute façon dans la marge d'erreur, hein, que ce soit Donald Trump ou Kamala Harris. C'est pas un hasard si récemment Kamala Harris se concentre sur les républicains modérés, puisque finalement il n'y a que eux qui peuvent compenser la fuite d'un électorat, enfin en tout cas de comme on est dans la marge d'erreur, donc finalement de pourcentage d'électeurs théoriquement acquis au Parti démocrate vers le Parti républicain. Je pense à une frange des électeurs latinos qui votent Trump d'ailleurs avec tellement de conviction qu'ils ne se sentent même plus concernés lorsqu'ils insultent, hein, faut bien dire les choses telles qu'elles sont, les étrangers ou les migrants. Également, ben, on en a parlé aussi un petit peu d'une frange de l'électorat juive américaine, même si la majorité d'entre eux continue à voter pour le Parti démocrate, c'est quand même beaucoup moins qu'avant. Chez les hommes noirs, on en a beaucoup parlé, qui ne votent pas Kamala Harris comme ils ont voté pour Barack Obama, enfin, etc., etc. Donc on voit Kamala Harris qui, elle, essaye de récupérer des voix de républicains raisonnables, pour ne pas dire normaux, mais enfin en tout cas pas extrémistes. Ça va se jouer dans un mouchoir de poche. Ce que nous dit de toute façon cette élection, c'est que dans tous les cas, elle sera historique, puisque si c'est Kamala Harris qui gagne, c'est la première femme de l'histoire des États-Unis à devenir présidente. Si c'est Donald Trump qui le remporte, eh bien, ça sera quand même un comeback, donc un retour politique assez stupéfiant pour quelqu'un qui est sous le coup de multiples accusations judiciaires, sans même parler de ces mises en accusation sur les événements du Capitole. Et puis c'est surtout, peu importe qui gagne, et c'est pour ça que la question d'après, elle est importante, l'illustration que l'Amérique, en tout cas les États-Unis pendant très longtemps, se sont vus comme certes un État fédéral, mais une nation dans un pays, et qu'en fait là on a l'impression qu'il y a deux nations dans de multiples petits pays. J'ai une amie qui me disait récemment à Washington qu'il y avait aux États-Unis, on devenait de plus en plus le bubble je sais plus quoi. En fait, les gens ne supportent plus, vivent dans un entourage qui ne correspond pas à leurs propres valeurs. Et donc, du coup, il y a plein de gens qui vont jusqu'à déménager, à franchir des frontières de plusieurs États, simplement pour se retrouver entre personnes qui pensent pareil, confère l'espèce d'exode de Californien assez récente vers le Texas, par exemple.
Tout à fait, Austin.
Voilà, donc, vous voyez, peu importe qui gagne, on a vraiment cette image de deux Amériques qui n'ont absolument rien à voir l'une avec l'autre. Et ça, par contre, pour un futur, je dirais à moyen terme, ça commence à devenir un peu préoccupant, on est au-delà d'avoir des idées différentes politiquement quand même.